Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 15 du Souterrain. Vous êtes avec Matraque pour ce nouvel épisode et j'espère premièrement que vous avez eu un bon deux semaines. De mon côté, ça s'est quand même bien déroulé, je suis content. Puis j'ai eu une discussion en fin de semaine avec un de mes chums, puis ça m'a amené une réflexion, ben du moins ça nous a amené une réflexion que je vais vous partager tantôt en intro et tout. Donc, on a une réflexion sur un peu l'espèce de cultisme qui règne en ce moment dans la sphère, appelons ça la sphère underground black metal, là, bref, du moins au Québec. En tout cas, je vais vous en parler plus longuement tantôt. Et avant qu'on aille avec cette intro-là, je veux vous faire un topo vite de qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le souterrain. Premièrement, on va s'entretenir avec justement Michel Perron pour une boîte de Pandore. Et là, il va nous parler dans le fond des flippers et des revendeurs. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose qui est viable ou honorable ou pas? Ou bref, comment tout ça, c'est quoi les rouages derrière tout ça? Donc, on va s'entretenir avec lui tantôt là-dessus. Et il y aura aussi en fin d'émission le compte habituel de Quentin Fourreau. Cette semaine, il nous arrive avec la reine des feux follets qui enlève un berger et qui veut forcer ce berger-là à la marier. Donc, c'est un conte du Berry, territoire dans le centre de la France, si je ne m'abuse. Donc, c'est l'apport de Quentin pour le conte du soupirail. Ça va être en fin d'épisode. Et donc, c'est pas mal ça pour le contenu du show ce soir. Je vous parlais tantôt du fait que j'avais eu une discussion et une réflexion avec un de mes chums en fin de semaine. C'est par rapport au... Comment je pourrais dire? Dans le moment, il y a une espèce de gros hype sur certains bands, certains labels et tout. On a déjà parlé dans des chroniques avec Michel, on a déjà parlé dans des chroniques avec Pierre-Yves aussi. En tout cas, j'ai comme l'impression que il y a certains groupes, puis encore, tu sais, je vise personne en particulier et tout, sauf que il y a certains groupes qui ont comme perdu l'essence de c'est quoi qu'il y a derrière le projet d'avoir un groupe. J'ai l'impression qu'il y a des groupes qui sont là juste pour faire des posts sur les réseaux sociaux, puis que c'est juste, le groupe sert juste à alimenter justement des publications, puis souvent, c'est des bands qui vont aller chercher un peu dans la controverse et tout. On dirait que c'est tout ce qu'ils ont retenu, OK, la scène black metal des années 90, c'est le côté de la controverse. Ce qui, bon, fait partie de l'histoire, on peut pas le nier, sauf que c'est plus que ça, tu sais. Premièrement, c'est un mouvement musical, tu sais, ça le dit. Un mouvement musical, ça va avec de la musique. Il faut que tu arrives avec de la musique en avant-plan, c'est l'essence même du projet en tant que tel. Puis j'ai l'impression qu'il y a des groupes qui ont perdu ce focus-là, qui sont vraiment juste ces réseaux sociaux pour alimenter une page, comme plein de compagnies font, ou tu sais. Puis encore là, c'est correct, tu sais, c'est faut être de son temps puis utiliser les ressources puis les outils qu'on a apportés, sauf que il y a un certain dosage à faire. Et bon, ce que j'ai constaté en jasant avec mon chum, c'est qu'on se rendait compte tous les deux que c'est quelque chose qui est un peu plus répandu qu'on pensait, ben, qu'on pourrait le croire au premier abord du moins. C'est ça, des groupes qui sont dans la controverse ou qui essaient de créer de la controverse, ou des, tu sais, du monde qui sont un peu dans cet entourage-là, dans les collections et tout, puis qui... Comment je pourrais dire ça? C'est touché à dire, à résumer, mais il y a plein de monde qui pense avoir leur vision qui est excellente, OK, et unique. Tout le monde, OK, c'est le même principe. C'est quasiment sectaire, là. Tout le monde pense avoir la vérité. Tout le monde pense que sa vérité est la vérité orthodoxe, puis que celle des autres est une altération de la bonne. Donc, c'est la sienne. Puis dans le fond, ben c'est plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis c'est beaucoup plus éclaté que ça aussi comme mouvement et tout. Fait qu'il y a pas vraiment, je trouve ça bizarre que des gens qui essayent d'imposer une espèce de pensée unique dans un milieu musical qui a toujours été fondé sur le fuck-off de la pensée unique, justement. Fait que ça m'a fait un peu Ça me chicote un peu. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans les derniers temps, puis il me semble que ça s'est vraiment accentué peut-être dans les derniers mois, peut-être dans les 4-5 derniers mois. Puis bref, ça m'a fait penser à une utilisation mal... Comment je pourrais dire ça? Une utilisation erronée, OK, des réseaux sociaux avant le temps. Et que, ben moi, j'ai vécu à une certaine époque que je vais vous raconter là. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais raconté. Je n'ai parlé, évidemment, à mes gens... proche de moi dans mon entourage, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment raconté en public ou que ce soit, tu sais, dans Ars Macabro, dans mes shows de radio. Bref, c'est quelque chose qui c'est la première fois que je vais aborder. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où je jouais avec Katsu Volkus. Pour ceux qui connaissent pas le groupe, pour faire une histoire courte, c'est un groupe qui est dans le... C'était du black metal gaulois, de la façon que eux définissaient ça. Le concept était basé justement sur la Gaule, le passé glorieux de la France, en gros. Et là, ça remontait justement à la Gaule et tout. Puis, il y avait un certain... comment je pourrais dire? C'était des gars qui étaient assez jeunes, qui, à l'époque, débutaient pour la plupart. Puis, il y avait de la volonté. Ils voulaient vraiment... Puis, ils ont un peu fait l'erreur que beaucoup de groupes font, c'est-à-dire mettre la charrue en avant des bœufs, puis essayer d'aller trop vite. Moi, à une certaine époque, je les ai connus quand ils avaient sorti un démo puis un premier album qui était quand même passé un peu sous silence parce que les gars étaient jeunes, puis il n'y avait aucune notion de marketing, de mise en marché. Ça avait été fait un peu à va-vite avec... les amis autour d'eux qui étaient au courant. C'est pas mal comme ça que c'est sorti. Moi, ça a donné que j'ai découvert ça par hasard sur un label. J'ai acheté un album, puis j'ai entendu ça, puis j'ai contacté le band, puis parce que le concept m'intéressait. T'sais. Moi, je suis historien de formation, fait que d'aller parler de la Gaule et tout, je trouvais ça original comme concept. Donc, je me suis mis à jaser avec le chanteur du groupe pour finalement, de fil en aiguille, ça a fini qu'à un moment donné, il m'a demandé pour être session pour enregistrer le prochain mini-album. Moi, à ce moment-là, ben, ça fitait dans mon horaire. J'avais le temps, j'avais le goût. J'ai dit, envoie-moi les tunes. J'ai écouté, j'ai aimé ça, j'ai embarqué, j'ai fait le premier enregistrement. Ça, c'est sorti. C'est un EP qui s'appelle Terre de sang. Puis, bref, c'est sorti. Puis ensuite de ça, il y a eu... Moi, j'étais à session. Il y a eu la composition d'un deuxième album avec, justement, la décision de faire ça en studio un peu plus... plus travaillé, de prendre plus leur temps, justement, pour faire de quoi de qualité. Et ça a donné Gergovia, pour faire une histoire courte. Ça a été une expérience vraiment cool. J'ai adoré ça, travailler là-dessus. La liberté que j'ai eue aussi pour, d'un point de vue, pour le mini-album, c'est pas moi qui avais écrit mes partitions, je jouais ce que eux m'avaient donné. Pour l'album, même si j'étais session, ils m'avaient laissé carte blanche pour faire mes affaires. Fait j'avais composé mes choses, j'avais fait approuver ça par le chanteur et tout. C'était correct. Genre, on avait enregistré ça. Ça avait été une super belle expérience. Et là, il est arrivé... Évidemment, j'avais pas... Il y a quelques épisodes, j'ai fait deux chroniques sur les choses à éviter, notamment donc les choses à éviter avec les réseaux sociaux. Et quand j'ai fait cette présentation-là, je disais que je lançais la pierre à personne, que c'est des choses que moi-même j'avais vécues, notamment là-dedans. Ben, il y a cette anecdote-là que je suis en train de vous raconter. Et donc, comme je disais, l'album sort, ça va super bien. Il y a un certain hype parce que, bon, la compagnie de disques, faut leur donner, avait fait leur travail de leur côté. Il avait fait une belle mise en marché, il y avait des bons retours et tout. Et là, il est embarqué l'espèce de hype de réseaux sociaux, mais ça, c'est pas pour... Le hype était pas pour les fans, mais plutôt pour le band. Et là, le band, je m'exclus. Comme je vous dis, j'étais session. J'avais pas vraiment droit de regard là-dedans. Je laissais les choses aller, sauf que j'étais le premier que ça tapait ses nerfs. Et qu'est-ce qui me tapait ses nerfs? C'était justement la saturation de posts insignifiants. Et comme j'avais déjà raconté dans justement les chroniques où je disais les trucs à pas faire, tes intérêts personnels, on s'en calisse. Ben ça, c'était les genres de posts qu'il y avait sur la page. Ensuite de ça, il y avait des capsules un peu, genre, pour faire un peu découvrir le groupe. Ce qui, en soi, part d'une très, très, très bonne intention. Et sauf qu'au final, pour la grosseur du projet, ou du moins comment les gens connaissaient le projet, ça méritait pas une biographie de groupe, là. Ça virait quasiment là-dessus, là. Je me souviens d'un post que je voulais m'arracher les cheveux, tu sais. Puis c'était justement une photo des la pochette de Terre de sang. Dessus, il y a des menhirs. C'est des menhirs qui ont été pris en photo à Carnac, en Bretagne. C'est une photo originale de quelqu'un que le groupe connaissait et tout. Ça a été repris et ça a servi comme pochette. Mais dans le genre de capsule d'informations stupides qu'il y avait, à un moment donné, je vois ça et ça, c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase de mon côté. Non, c'était pas elle. Ça, c'est la goutte avant. Mais bref, il y avait la pause. Saviez-vous que telle photo a été prise à Carnac, en Bretagne? Oui, mais so fucking what? T'sais, c'est qui s'intéresse de savoir ça, que tes roches ont été posées en Europe? Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais c'est, pourquoi faire un post avec ça? Quand je parlais dans la chronique justement des choses à pas faire, de saturer de posts insignifiants, ben c'est un peu ça. T'sais, s'il y avait eu un post comme ça dans l'année, tu dis bon, ok, le gars l'échappait un soir. Mais là, c'était des posts comme ça tout le temps, alors que personne demandait d'informations sur le projet. Puis justement, avec les « saviez-vous que », j'avais l'impression, en tout cas les gens peut-être plus vieux qui ont connu les cochonneries de ça passait à Musimax, là. Ils passaient des vidéoclips, t'avais des petites bulles avec des informations stupides et cocasses par rapport à des événements ou des réflexions rigolotes. J'avais l'impression de contempler ça sur la page d'un band avec qui je jouais. Chose qui m'a fait tilter. Et là, bref, est arrivé l'autre événement qui m'a fait tilter encore plus. C'est justement, bon, les gars étaient jeunes, ils étaient un peu girouettes, là, ça allait pas assez vite à leur goût, alors que ça allait super bien. Puis à comparer d'autres projets de gens de cet âge-là, il y avait déjà une longueur d'avance en termes de marketing, de mise en marché, il y avait un bon label, il y avait de la visibilité. Mais ça allait pas assez vite, puis fallait alimenter le Facebook avec des maudites publications, ainsi que, je pense que c'était MySpace et tout à cette époque-là. Et là, un jour a eu lieu la vente du drapeau avec le logo du groupe. Chose que ça a tellement pas rapport. Tu peux même pas acheter ça d'un gros ben international, là. Et là, c'était le moment où, personnellement, c'est là que moi je me suis fâché et j'ai appelé le groupe en faisant « Écoute, on est supposé faire de la musique, là. De faire des posts à tous les jours, des photos, puis de vendre telle affaire, puis de donner plein d'infos que le monde n'a pas demandé. C'est pas ça, faire de la musique. C'est pas, tu sais, c'est pas. Le spirit, il est pas là. C'est pas ça. Et ça donne en fait, notamment que bon, ça coïncidait avec le fait que les gars venaient de m'envoyer les partitions pour l'album d'après. Et j'étais pas d'avis de mon côté que c'était quelque chose qui était fini comme job, puis je voulais qu'on travaille ça un peu plus parce qu'il y avait encore, tu sais, il y avait du potentiel à travailler ça un peu plus. Étant session, évidemment, le dernier mot, il me revenait pas. Sauf que, ben, t'as toujours le choix de crisser ton camp. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que, dans le fond, la raison qui était amenée après toutes ces posts-là et tout, c'est que là, il fallait sortir un nouvel album parce qu'il y avait un hype sur les posts sur Facebook. Chose qu'on s'en calisse. Donc, au final, qu'est-ce que ça a donné? C'est que ça l'écœurait plein de gens à cause des posts. Et quand, dans le fond, le nouvel album est sorti après, il y a beaucoup de gens qui s'étaient désabonnés de la page ou qui avaient carrément bloqué la page parce qu'ils étaient écœurés. Je recevais moi-même, je recevais des messages de gens qui me connaissaient plus ou moins, tu sais, des connaissances, pas tant, toutes des amis. Oui, il y avait des amis proches, mais même des connaissances. Tu sais, quand une connaissance au troisième degré, là, t'écris pour te dire « Hey man, le dos des l'échappe, tu pourrais-tu lui dire de fermer sa gueule? » Ça rentrait comme ça, là, à pocheter. Et là, ben, la réflexion que ça me ramène à ma réflexion fin de semaine avec mon chum, j'ai un peu l'impression qu'il y a des groupes qui font ça. Ils font juste titiller les réseaux sociaux pour publier plein d'autres vidanges autres que de la musique. Et plein d'affaires qui n'ont aucun rapport avec la musique. Et il y a une espèce de joute à lequel serait le plus grim ou le plus culte, là, mais pendant que tu essaies d'être grim avec tes photos et tes filtres Instagram, tu as oublié le principal, c'est-à-dire de composer de la musique. Puis c'est ça, depuis, en tout cas, si je me fie à la discussion qu'on a eue, moi puis mon pote, c'est quelque chose qui s'est vraiment accentué dans les derniers mois, dans les 4-5 derniers mois du moins. Moi, je le remarque plus. Est-ce que c'était déjà comme ça avant, puis j'en étais pas conscient? Peut-être. Tu sais, peut-être que vous trouvez que je suis dans le champ, puis que ça n'a pas rapport, sauf que, du moins, de ce que j'ai pu, parce que j'ai aussi tâté le terrain avec une couple de personnes autour, puis... en tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire de l'avis général pour après avoir parlé à 5 personnes, sauf que à 100% sur 5 personnes, les 5 personnes m'ont dit exactement, on en venait à peu près exactement au même résultat, au même constat. Fait que c'est ça, j'ai une piste de réflexion comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que puis là je dis des groupes, c'est pas tous les groupes. Il y a des groupes qui ont encore une super bonne éthique de travail, qui ont vraiment le spirit, qui le font vraiment pour les bonnes raisons. Puis tu sais, je veux dire, j'en parlerai pas parce que c'est pas eux qui sont visés du doigt dans cet éditorial là. Sauf que je sais pas, si vous avez gardé, écrivez sa page Facebook du Souterrain, tu sais, allez commenter, voir qu'est-ce que vous en dites de votre côté. Suis-tu dans le champ? Tu sais, moi puis mon pote, on est-tu dans le champ où on a peut-être décelé une tangente qu'il y a dans les derniers temps? Bref, c'était mes deux scènes là-dessus. Évidemment, là, tu sais, je vous parle de Casuvolcus et tout, de la situation. Je veux préciser une chose. C'est moi, quand je suis parti du groupe, on est parti en très bons termes. Puis, tu sais, les gars ont fait leurs affaires. Il y a un des gars là-dedans qui s'est reparti son propre projet, que ça va très bien d'ailleurs. Tu sais, ça s'est terminé en bons termes et tout. Ce que je vous dis là, c'est toutes des affaires que... Moi, j'ai déjà parlé avec les gars, fait que tu sais, j'ai pas vraiment l'impression de révéler un secret qui pourrait, tu sais, ou quelque chose qui pourrait foutre la merde ou compromettre cette relation-là. Mais tu sais, je vais mettre carte sur table, puis tant qu'à parler de un groupe, regardez, on va le nommer. C'est ça qui est ça, puis c'est ça qui est arrivé, puis du moins, tu sais, le groupe a fait encore un album après ça qui, à mon goût, j'aimais moins les tunes, sauf que ça a quand même eu un bon succès, ça y a eu une bonne réponse et tout, tu sais, pour le groupe, ça a quand même été bénéfique et tout, fait tant mieux pour eux. J'ai vu d'ailleurs, et je le salue si jamais il nous écoute, que justement, le chanteur de Casuvolcus fait encore de la musique. C'est juste qu'aujourd'hui, il fait ça sous une autre appellation. Il n'est plus vraiment relié à Saint Metal. Il fait ses affaires à lui, puis il roule ça, puis ça sonne encore lui. Donc, si vous voulez entendre ça, fouillez un peu sur les internets, c'est facile à trouver. J'en parlerai pas plus, mais vous serez pas, si vous avez aimé le Casuvolcus de l'époque, vous allez peut-être bien vous retrouver dans ce que vous allez entendre sur les internets de ce monde. Donc, si jamais ils nous écoutent, ben, salut les gars. Et si jamais, ben, ça se rend dans leurs oreilles, ben, j'assume absolument tout de ce que je viens de vous dire. Sur ce, on s'en va en musique avant la chronique à Michel. Et là, quel band qu'on s'en va entendre. C'est vrai, j'ai sélectionné deux groupes pour l'épisode de cette semaine. D'ailleurs, c'est vrai, petit erratum, la semaine dernière, je tiens à m'excuser, les deux pièces que j'ai présentées, c'était des pièces qu'on avait déjà passées. Donc, au montage, on s'est dit qu'on allait colmater la fuite en mettant deux autres chansons différentes qui étaient jamais passées dans le souterrain. Et là, ben, je me suis organisé de mon côté, ça devrait plus se reproduire. Donc ce soir, ce qu'on a comme première pièce, c'est un groupe québécois qui s'appelle A Raven's Forest. C'est un démo qui est paru en qui s'appelle Werewolf Chant. C'est paru en 2004. Et là, tu sais, quand je parlais de la petite chronique avec les choses à pas faire et tout, avoir un nom de démo en anglais puis un nom de band en anglais, avoir une tune qui s'appelle 1837, ça se fait pas. Mais parce que la toune est excellente, je vais quand même vous la passer. Et portez une attention particulière à la dernière moitié de la chanson. La finale de la toune est assez... je trouve que ça sonne chope de bière qui se claque. Et y a un côté festif dans cette espèce de toune-là qui me plaît bien. Donc, je voulais vous partager ça. Fait qu'on s'en va entendre A Raven's Forest à l'instant. Et on vient d'entendre la pièce 1837 du groupe Ravens Forest. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez autant tapé du pied et fait des oui-oui de la tête que moi pendant la dernière moitié de la toune. Je trouve que c'est une belle façon de finir une toune. Et là, ben, sans plus tarder, je vous en avais parlé en introduction du show. On s'en va ouvrir la boîte de Pandore parce que Michel Perron est au bout du fil. Hey, salut Michel, comment ça va?
Hey, ça va très bien, toi?
Yes, ça va super bien. Et là, ben, cette semaine, pour la boîte de Pandore, tu nous avais amené encore une chronique sur la fin du modèle partie 3, hein, si je me
oui,
rappelle
exactement,
bien.
Oui, exactement, exactement. Puis cette semaine, on va essayer de faire un peu la différence entre un revendeur et un flipper, puis est-ce qu'on est pour ou contre en tant que tel. En tant que tel, le but de la chronique, c'est vraiment de traiter de un et l'autre pour être capable de faire une belle grosse différence, parce que pour moi, il y en a une. Parce que un revendeur, c'est quelqu'un qui va revendre des choses, mais pas nécessairement comme but principal au début de faire du profit. C'est le flipper, lui, l'item, il est vendu. Le pré-order se termine, il va te mettre ça à un prix de mongol sur Discog. Et le revendeur, ben, ça peut être quelqu'un qui a l'item chez eux, puis à un moment donné, il décide tout simplement de le revendre. À haut prix, à bas prix, mais il le revend. Le flipper, l'action est vraiment prédéterminée d'avance. Pré-order, revente facile.
OK.
Mais en tant que tel, tu sais, à savoir, est-ce qu'on est pour ou contre toi, tonton? Il me semble qu'on a déjà vaguement parlé que tu étais contre ça.
Oui, bien, il y a de quoi que je pourrais te donner par rapport aux revendeurs. Ça, j'ai rien contre. Si, dans la mesure où c'est quelque chose que tu n'écoutes plus, tu sais, que, mettons, tu as un album que tu n'écoutes plus vraiment, puis que tu ne l'as pas écouté beaucoup, puis que tu sais, tu tournes une fois par année que tu veux entendre, tu peux aller l'écouter ailleurs, que tu revends ton album, c'est tel que tel. D'acheter du stock à la sortie pour le revendre à un prix de mongol, je trouve que c'est carrément manquer de respect. En premier lieu, c'est manquer de respect au Ben. Deuxièmement, c'est manquer de respect à l'intelligence humaine. Là, t'sais, je trouve que c'est de l'abus. Ça, c'est ma vision des choses, mais bon, c'est ça. Fait que je suis pour revendre, mais les flippers, pas vraiment.
Ben, c'est correct aussi. T'sais, ça prend une belle divergence d'opinion et une belle vision de tout ça aussi. C'est ça qu'on va essayer d'un peu de défricher là-dedans. Puis ce que tu viens de me dire, moi, je trouve ça intéressant parce que ça me rapporte un peu un point que j'ai pensé. C'est le moment où est-ce que tout ça devient frustrant. C'est quand on est confronté à la situation. Le monde de la musique n'est pas différent des autres. Il y a de la spéculation sur les chars, la boisson, les jeux vidéo, sur les consoles, sur les livres rares. Mais quand c'est fait en dehors d'une sphère pour laquelle on n'a pas d'intérêt, on y pense pas et on s'en fout un peu. Mais quand on est directement touché, on fait comme « Ah, ben là, j'aurais pu l'acheter à 25$ plus 25$ de shipping, puis là, ben il est à 105$. C'est là qu'on déchante un peu. Puis cette possibilité-là de flipper puis de revendre, ben elle vient en fait avec la connaissance du prix du marché qu'on a déjà parlé avant. C'est une habile lecture des opportunités d'affaires, si je peux le dire de même.
Oui, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire.
Tu sais, ça demeure, oui, une action économique, c'est pas l'idéal, c'est pas souhaitable, mais il faut toujours aussi garder en tête, puis qu'on se comprenne bien, je ne fais pas l'avocat des flippers, loin de là, ni l'avocat de certains revendeurs qui mettent des choses à des prix outranciers. Mais il faut penser aussi que les gens qui font ces actions-là prennent un risque aussi.
Ouais.
C'est que demain matin, tu peux vouloir flipper, c'est correct, mais ça donne que tu l'achètes, il sort, l'album est pourri, puis il y a une très mauvaise réception finalement. Le gars m'a acheté 3-4 copies, il est pogné avec chez eux.
C'est ça.
C'est sûr que Il n'y a pas toujours un montant, un gain qui vient avec l'action. Flipper, c'est un domaine à risque. C'est des plateformes comme Discord aussi qui ont facilité cette éclosion-là parce qu'on a les tendances, comme on en a déjà parlé dans les anciennes chroniques, chose qu'on n'avait pas dans le temps avec eBay.
Oui, OK. Oui. Parce que eBay, dans le fond, t'avais soit le prix fixe que t'achetais ou t'achetais pas, ou bien t'avais le bid, puis ben rendu là, c'est au plus fort la poche, là, tout simplement.
C'est, on ne trouvait pas non plus d'historique de vente de eBay. Là, on sait que tel groupe, les trois derniers albums, les vinyles sont rendus à 100-150$. Mm-hmm. Ben, c'est évident que si le quatrième sort, tu as une partie des personnes qui vont vouloir l'acheter, peut-être pour l'écouler. Ça vient du fait qu'il y a une connaissance des valeurs. T'sais, eBay, dans le temps, on va dire au début des années 2000, ce qu'on avait beaucoup, c'était des CD à 99 cents. Puis les vendeurs, ben souvent, ben ils laissaient plus les acheteurs se battre avec une enchère, puis il n'y avait pas de problème avec ça. Regarde, moi, je m'en débarrasse, il est là, puis achetez-les pas. Il finit à 20$, de toute façon, il dormait chez nous, c'est pas grave. Il finit à 150, ben tant mieux, il y a du monde qui le voulait. Puis aujourd'hui, pourquoi il y a autant de boutiques sur eBay? Contrairement à des enchères, c'est que les gens savent très bien que le vinyle ou le CD qu'ils veulent vendre a une certaine valeur.
Ouais.
Si tu sais que le vinyle vaut 150$, ben tu n'iras pas le mettre à 99 cents.
Dans l'espoir,
tu sais, il y en a qui peuvent prendre le guise de dire je vais le décoller à 99 cents, je vais voir où ce qui va se rendre. Puis si ça n'arrive pas, ben ils cancellent l'enchère une journée avant, mm-hmm. puis fin des épisodes.
Mais par contre, tu parles de eBay, puis il y a quelque chose, par contre, qu'il faut tenir en ligne de compte, c'est comment Post Canada est un mastermind de nous fister le budget.
Pis, totalement.
Tu sais, de mettre ton esti de CD à 99 cents, quand ça coûte déjà 18 piastres de shipping, il est quand même à 19 piastres ton CD.
Ah, t'sais. Ben oui, mais au début des années 2000, on n'avait pas ce problème-là. C'était 4,99 de shipping, puis le CD à 99 cents. Oui,
mais ça a monté assez rapidement, là. Oui. Et il y a aussi la crosse, là, puis ça pour les auditeurs, ceux qui vendent du stock. Quand que vous allez à la poste, là, la madame va faire exprès pour mettre votre enveloppe. Tu sais, ils ont une espèce de fente dans un plexiglas, là, puis là, ils font passer leur colis, puis si ça passe dedans, ça passe comme lettre, puis si ça passe pas, ils vont le passer comme petit paquet ou colis, ce qui coûte encore
là,
plus, cher.
Coûte plus cher.
Et habituellement, la fille est trop conne pour mettre ça sur le bon sens, elle le met, tu sais, pour que ça fasse comme une croix, là, la fente avec l'objet sur le bord, puis là, tu regardes en disant, ça ne passe pas, c'est un colis. Fait que là, ben toi, tu es obligé de payer encore plus cher pour un CD qui aurait pu passer comme lettre. Fait que ça, c'est une des crosses qu'ils font aujourd'hui, mais ça fait longtemps que Post Canada a trouvé des façons de nous voler.
Ah, ben oui. Juste la gamme de poids pour déterminer comment ça coûte expédier, c'est épouvantable. J'ai envoyé un vinyle en Allemagne en fin de semaine. Regarde, j'y étais samedi, là, 40, je pense que ça a coûté 43,25 pour deux vinyles envoyés en Allemagne. J'étais sans connaissance. Ça allait encore monter. C'était 41$ là, pas longtemps. Ou 40. Là, on a encore une augmentation. À un moment donné, le monde a tout simplement arrêté d'acheter parce qu'on devient des infréquentables au niveau de l'expédition. Là, ça...
Ben, moi, je te dirais que Post Canada, je suis pour la privatisation totale de cet organisme de merde-là, notamment à cause de ça. L'autre affaire qui est vraiment triste, c'est que le monde à l'international le savent qu'on se fait fourrer. Tu sais, moi, j'étais gêné. Je suis encore gêné quand je vends du stock de mes bennes. Puis je dis au gars, est-ce que ça coûte 30$ de shipping t'envoyer un esti de vinyle? Puis qu'il me dit, ah non, c'est correct. Tu sais, t'es au Canada, on sait que vous faites fourrer. Elle s'est rendue que c'est accepté qu'on se fasse fourrer, même par le monde qui commande à l'étranger.
Oh oui, ben ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix, mais je veux dire, c'est pathétique qu'il y ait de la sympathie, qu'on se fasse fourrer puis qu'il n'y a personne qui fait rien. Mais bref, là, je suis en train de te faire dévier ta traque bien raide. Fait que excuse-moi, OK. On oublie pas ce Canada de merde, on revient à eBay avec les CD à 99 cents.
Yes. Puis, tu sais, début des années 2000, c'est la même période où est-ce qu'on croisait nos chums, puis qu'on était chez eux, on regardait sa tour à CD, disait, hey, tu l'écoutes-tu encore, ce CD-là? Puis, il disait, oh non, regarde, donne-moi 5-10$, puis pars avec, c'est mm-hmm. correct, je m'en contrefiche. Aujourd'hui, c'est, t'as peu, je vais regarder comment ça vaut, puis on s'en reparle tantôt. Mm-hmm. Tu sais, la façon de vendre, de trader, puis d'acheter a nettement augmenté. Tu sais, c'est plus la même affaire depuis à peu près 20 ans. Là.
Effectivement.
Ça fait, tu sais, ces plateformes-là ont collaboré à l'éclosion des flippeurs puis des revendeurs. Mais cette connaissance-là aussi, on peut se poser la question, c'est oui, c'est une chose, mais pourquoi on flippe, pourquoi on revend? Ben, c'est pour combler des besoins financiers. Ça, mm-hmm. ça, c'est évident. Il y a aussi le défi qui est en lien de gagner un pré-order difficile, puis ta récompense, dans le fond, c'est de revendre.
Oui.
Parce qu'à un moment donné, ça c'est un aparté, là. Puis ouais, il me disait, il y a un tape de El Moon qui sort sur Gem, il disait, il est limité à 8. dit limité à 8. Tu niaises-tu? Non, 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 c'est limité à 8. Puis il y a une plaque de tôle en plus en avant là, avec l'image. Je sais pas pourquoi ils font ça avec à 8 copies. Là, mais c'est intéressant. Je dis, ça sonne quasiment comme un défi. Fait que là, il dit, oh, je vais essayer. Il dit, oh, regarde, je vais essayer pour le fun. Là, tu sais, question de se lancer un peu un défi. Puis ouais, il n'a pas été capable de pogner. Moi, je l'ai pogné. C'est que finalement, je l'ai revendu le même prix que je l'ai acheté. Là, tu sais, le but n'étant pas de profiter de PY loin de là. Ça fait qu'au moins, il l'a eu, puis c'est correct. Mais justement, ça peut être aussi un défi de gagner des pré-orders difficiles. Tu dis, ah, ça va être ma paye si je le gagne, ouais. Ça va être correct. Puis, tu as l'autre option que je crois peut-être un peu moins, c'est faire suer la scène puis les autres collectionneurs. Moi, je suis vraiment plus de l'idée que c'est pour des raisons monétaires vraiment à prime abord.
Oui, puis il y a aussi un point que tu avais déjà amené dans une chronique antérieure. Et ça, je trouve que ça s'explique, puis ça se... C'est légitime. C'est, tu sais, tu me disais à un moment donné, moi, si je trouve, je pense à un vinyle de Satyricon, tu disais, si je trouve le vinyle First Press, je suis prêt à vendre telle affaire puis telle autre affaire pour le financer. Mais, ça, je peux comprendre, parce que, tu sais, le collectionneur qui veut justement le gros item, il y en a d'autres que tu vas moins chérir dans ta collection rendu là, mais si tu peux faire un... Tu sais, si tu peux le vendre pour être capable d'aller chercher de quoi de plus encore que comment je pourrais dire, que tu cherches encore plus, je trouve que c'est une très bonne raison de faire la vente comme ça. Le problème, je pense, qui est dans le volume.
Oui.
C'est dans le volume, tu sais, si tu vends tout le temps, puis c'est comme il y a les rafles là sur internet, là, on en reparlera un autre matin.
Oui, on en reparlera, si on fera une chronique là-dessus.
Mais ça me fait capoter de tout le temps voir les mêmes personnes vendre des CD à tous les jours, c'est que tabarnak, t'es-tu en train de vider ton grenier
parce que la caverne d'Ali Baba, elle est sans fond pour certaines personnes, c'est épouvantable.
Et je me dis, à part vendre du stock, tu n'écoutes-tu des fois parce que ça me fait capoter, tu sais, je dis ça puis tu sais, j'ai deux ou trois personnes en particulier que je vois souvent sur les pages que moi je suis abonné, que je vois passer. Puis justement, j'ai eu la réflexion l'autre fois de me dire, coudon, c'est quand la dernière fois qu'il écoutait un album? Parce que j'ai l'impression qu'il vend tout, tu sais.
Ah, ben il y en a qui ont des méchants greniers, là. T'sais, moi, c'est sûr que j'ai pas un immense grenier, mais moi, je dis tout le temps, quand tu dis, des fois, tu as des items que tu n'écoutes plus puis que tu les revends plus tard, moi, j'achète pour moi, de la musique que j'aime, mais des fois, tu te dis, bon, ben je l'écoute moins, justement, je peux le repasser, puis moi, je suis un genre de spécialiste un peu là-dedans, c'est, j'aime l'album, c'est correct, finalement, il prend de la valeur, j'ai un peu de flair, ça fait que je suis capable de le repasser, puis ça me finance pour autre chose, puis c'est à ça que ça sert un peu aussi, tu sais, un bon tantôt, quoi que j'achète pas de la musique que j'aime pas pour faire de l'argent dessus, ça m'arrive pas, là. Mais je préfère encourager, puis un moment donné, ben ça donne, ça prend de la valeur, puis un repress qui sort, ben regarde, il y a tout le temps une valeur associée au Pro Force Press aussi, c'est que tu es capable, capable de faire de quoi avec ça. Mais tu sais, ce qui revient un peu où ça se pose la question, c'est-tu un crime, à quelque part, de faire de l'argent? Parce que,
mais c'est pas un crime, mais c'est éthiquement douteux. Mais il n'y a rien de criminel là, mais bon, moi, je trouve que côté éthique, quelqu'un qui fait ça comme ça, ben j'ai pas nécessairement le goût de dealer avec pour mon band.
Ah, je suis d'accord, je comprends. C'est... Je comprends totalement. Puis, l'affaire aussi, c'est qu'il y a des labels, comme on en a parlé, pas HSP, mais des copés qui font la chasse aux revendeurs.
Ouais.
Mais dans les faits, moi, je me questionne un peu même sur ce pratique-là, parce qu'un coup, c'est sorti des mains du label puis du band, l'album en question... Là. C'est une propriété privée. Là.
Non, c'est ça. Tu l'as payé, il est à toi. Rendu là, t'en fais ce que tu veux.
Parce que tu veux, moi, demain matin, je vends ma maison, puis si je la vends, on va dire 150 000, puis le gars, il décide de la vendre 450 000 le lendemain. C'est pas mon foutu problème.
C'est ça. Non, mais j'ai remarqué ça aussi, les labels qui font la chasse un peu aux vendeurs. Ça, je trouve que c'est un peu une perdre de temps dans le sens où, hey, concentre-toi donc, je n'ai eu un label, là. C'est la job en tabarnak à gérer. Concentre-toi donc là-dessus au lieu de perdre ton temps à faire chier du monde qui, au final, t'ont encouragé à quelque part à m'amener, là.
Puis, tu sais, ces gens-là, comme on a déjà parlé, feraient des quantités, des fois, qui ne seraient pas délirantes, là.
Ouais,
ça pourrait peut-être les aider, là. Peut-être qu'ils ne feraient pas, justement, la chasse aux revendeurs. Tu sais, puis, s'ils feraient une plus grande quantité, ben oui, ça s'écoulerait peut-être plus lentement. Il y aurait peut-être plus de rentabilité sur le long cours. Mais il y a un drôle de phénomène là-dedans parce que quand on parle de quantité, là, tu regardes au début des années 90, là, la vague norvégienne, là, faisait des quantités de mongols pour l'époque. Là. Wrath of the Tyrant, là, en 95, là, c'est 1000 copies. Là. Il y avait 36 millions à peu près d'utilisateurs d'ordinateurs à ce moment-là qui étaient branchés en ligne. Là.
Ah, pas, ouais!
C'est pas avec ça. Là, 1000 copies. Là. Nightside Eclipse, c'était 2000. This is of Tara, c'était 2000 copies aussi.
J'avoue que c'est excessivement gros pour l'époque. Là.
C'est énorme.
C'est un gros tirage, oui.
Hey, aujourd'hui, là, ton marché, c'est la planète entière sauf le Gabon. Là.
Ouais,
on comprend, là. Tu sais, c'est. Tu
dis, bon, puis encore là, man, j'ai un collègue de travail qui vient du Gabon, puis sérieux, ils ont l'air à brasser de l'argent en sacrament là-bas, c'est juste qu'ils n'ont pas le follow spot sur eux autres.
Non, ben, à Côte d'Ivoire aussi, ils en brassent du cash. Mais, tu sais, tout ça pour dire que ils font des grosses quantités pour l'époque.
Ouais.
Aujourd'hui, on a la planète entière comme marché, puis tout le monde est branché à Internet.
Effectivement.
Ils sont sans copie. Je comprends qu'il y a plus de bands. Il y a plus d'offres, d'après moi, qu'autre chose. C'est sûr que tu peux pas tout sortir en vinyle. Puis il y a eu un creux aussi un moment donné de la mode du vinyle. Là, ça a fait en sorte qu'il y a des bands qui ont comme passé un peu le tour. Mm-hmm. Quand on prend, mettons, Stormblast, Dimmu Borgir, là, moi, il y a 15 ans, j'ai payé ça 25$ puis il n'avait 2000 copies. Durant le creux, là, que ça intéressait personne, là, aujourd'hui, là, va pas voir comment ça vaut. Stormblast, tu vas vouloir t'immoler.
Là, tu parles de la version originale, pas le remix de la merde.
Oui, sur Cacophonus, là, c'était à peu près 400 balles.
OK.
Tu sais, c'était épouvantable, mais il y en avait fait 2000. Aujourd'hui, tu sais, quand Dimmu sort quelque chose, il y a un très gros tirage.
Oui.
C'est normal.
Ben là, ils sont rendus sur un gros. Je pense que c'est Nuclear Blast.
Oui.
Ah, c'est ça. Tu sais, il y a la machine qui vient en arrière aussi. Puis, tu sais, Dimmu, en fait, un peu comme Behemoth, ils ont pris la tangente, tu sais, de on va faire du cash, puis on va faire de la tournée, puis, tu sais, on va sortir des items promotionnels, puis des affaires à côté, tu sais. C'est correct, je veux dire, c'est une décision qu'ils ont pris, puis qu'ils assument. Fait que rendu là, oui, que t'as besoin d'un gros tirage. Un band qui est en tournée à l'année, t'as besoin de la merch, là. Ça
ben
se
oui,
vend
ben
vite
oui.
en show.
Ça, c'est correct, mais c'est les bands un peu moins gros, tu sais, même sans copie aujourd'hui, c'est pas tant que ça quand tu y penses, mais. Pour être un peu dans le milieu, 100 copies à vendre, là, c'est de la peau.
Ben oui, mais oui.
Quand le band n'est pas connu, c'est de la peau en calvaire.
Oui. Ben c'est un par un, tu sais. C'est comme nos auditeurs, on va les chercher un par un.
Oh yes.
Tu sais, c'est. On les salue.
Yes. la soif du vinyle ne veut pas être en augmentation.
Mm-hmm.
Mais vu que les faibles quantités sont présentes dans le monde dans lequel on vit, moi, je me pose la question, même s'il n'y aura pas une montée spectaculaire, la valeur des prix. Pour les vinyles qu'on a actuellement pour les bands?
Peut-être. Mais encore là, il y a tellement de variables. Tu sais, ne serait-ce que la qualité. Tu sais, le fameux Near Mint, là. Regarde, il y en a là, qui ont le presque neuf assez élastique.
Assez large.
Fait que, tu sais, c'est. En tout cas, c'est un peu. Je sais pas, c'est dur à évaluer. Mais...
Ah oui, c'est dur à évaluer. C'est très, très dur, parce qu'il faut que tu fasses confiance à ton vis-à-vis aussi. Tu sais, être un revendeur, c'est une affaire. Être un flipper, c'est une affaire. Mais des fois, oui, tu vas acheter de quoi, tu le reçois chez vous, tu veux le vendre comme étant un mint. Si, il y a les deux coins de bumpé. Il y a un
thin
split dans le top. Tu sais, quand je parlais de risque tantôt, c'est toutes des affaires qu'on dit, ah, c'est super le fun, regarde, je fais de l'argent, je suis flipper, ou encore, il me fait chier, lui, c'est un flipper. Il y a combien d'items qu'il a perdu à quelque part? Puis des fois, les prix sont élevés, parce que tantôt, tu parlais du shipping avec Postcan, puis ça a un rapport aussi. Paye un vinyle 25$ can, ça, pour juste un vinyle, ça te coûte 20$ l'envoyer en Europe. Déjà là, il est à 45$.
Exact.
Si tu veux le vendre, il faut que tu le vendes au moins à 50-55$.
Mm-hmm. Oui,
ben,
effectivement.
Déjà là, ton prix est élevé en partant. Puis si tu le vends, ben, Discord te suggère de le mettre plus haut, puis c'est là qu'il y a une escalade.
Mm-hmm. Mais là, ça, tu vois, tu ouvres la porte. Tu viens de me faire allumer sur de quoi, là, puis ça m'ouvre une porte que je vais quand même prendre. mettons que tu as un vinyle à 53$ qui sort en Europe, puis que ça coûte ça pour l'avoir ici.
Oui.
Là,
pas de quel vinyle tu peux parler?
On sait pas. Je donne un exemple fictif demain. Mais tu sais, c'est là que l'importance, en tout cas, pas l'importance, mais c'est là où je pardonnerais plus facilement l'éthique du flipper qui va en acheter justement à 10 pour les revendre ici.
Ben oui.
Ça dépend c'est quoi l'intention qui vient avec. T'sais, si ton intention, c'est juste de faire du cash, Ben dans le fond, ton intention, c'est juste de fourrer le ben, là, parce que le ben, il va faire le prix de vente à la base, puis ça finit là, là. Mais tu sais, si ton but, c'est de diffuser la musique, de faire en sorte qu'il y ait une accessibilité, puis que justement, tu sais, t'as encore 10 copies à 53$, puis que t'es revends à, je sais pas, moins 55$, à la limite 60, on s'en fout, tu sais. Je veux dire, la personne va aider à diffuser la musique. Fait que dans un contexte comme ça, je trouve que c'est éthiquement moins douteux.
Ouais, c'est correct.
Tu sais, puis ça donne un coup de pouce. Le groupe va pas aller chercher d'argent de ça, mais le groupe va aller chercher de la diffusion puis de la visibilité, ce qui vaut de l'argent, là. Tu sais, en publicité, ben, c'est oui. C'est ça que t'achètes en publicité, là, que le monde voit ta face puis ton nom, là.
Non, parce que la pub aujourd'hui, c'est pas facile à faire, là.
C'est ça.
La reconnaissance, là, sur Facebook, là, t'as beau te payer de la pub, là, c'est pas tant que ça marche pas.
Ouais.
Regarde, pour l'avoir fait avec une page personnelle, nous autres, là, c'est pas l'idéal. Puis on est même au stade, nous autres, de se dire, hey, on va se starter une mailing list. Comme ça, on va en plus envoyer un courriel parce que des fois, il y a des publications qui passent dans le bar.
Mm-hmm. Ouais, je comprends.
À cause des fameux algorithmes, là, ce qui n'aide pas.
Puis t'as beau être sponsorisé, tu sais, t'as beau avoir payé pour sponsoriser un post.
Il
y a 3000 compagnies qui ont payé pour être sponsorisé. Fait que ça se peut que t'aies une pub de Kotex au lieu d'une pub de vinyle, là.
Ah, je suis bien d'accord avec toi. Des fois, ça apporte pas grand-chose. Mmh. Et si on continue un peu sur le flipping,
mmh.
Moi, je flippe pas. T'sais, je vais être franc, je flippe rarement. En fait, presque jamais. Moi, je revends. Pourquoi je le fais? Parce que je suis seul à payer mon hypothèque puis j'ai des besoins de musique délirante. Et c'est... Moi, ce que j'aime, c'est la rareté, c'est des trucs qui sont beaux, c'est des surprises de machin. Si je me fie juste à mon rythme de vie, ben je serais pas capable d'y arriver.
Ouais.
Ça fait que quand tu as des besoins, soit tu arrêtes, puis tu n'en achètes plus, puis tu souffres, soit tu revends, tu souffres encore un peu, mais au moins tu as ton stock. Ça fait qu'à un moment donné, il y a des choix à faire.
Oui, puis tu sais, l'autre affaire aussi, en parlant de je parlais de volume tantôt. Il y a aussi le volume d'achat, tu sais, que c'est comme, gars, moi, il y a ben des bands que j'achète, tu sais, le stock quand ça sort, puis tout, mettons des nouveaux groupes que je connais pas. Je vais acheter l'album parce que bon, je me dis, bon, c'est un band québécois, puis tout, j'ai entendu un sample, je trouve ça bon, je vais l'acheter. Ben, ça se peut que je l'écoute pas tant que ça parce que finalement, c'est la meilleure tune qu'ils ont mis en sampling, puis que,
ouais.
Tu sais, fait rendu là, de leur vente. Tu sais, toi, t'es un gars qui consomme beaucoup, tu n'achètes beaucoup de musique, fait qu'à un moment donné, tu sais, que tu nous revends pour aller t'acheter d'autres choses, puis tout.
Ah, ça, c'est pas le choix.
C'est...
La musique, c'est un investissement,
hein? Ben, c'est ça. Puis, dans le fond, de ce que je suis en train de me rendre compte au fil de cette chronique-là, c'est une question de nuance à quelque part. Ben, tu sais.
Totalement.
C'est un peu tout le temps ça dans la vie, là, la question de nuance. Mais, je veux dire, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est dur de se prononcer de catégorique sur le flipper ou le revendeur. Il y a tellement de situations où ça s'explique puis d'autres où ça s'explique pas. T'sais, c'est...
Ben, t'sais, moi, si je me fie, comme je dis, à ma rentrée monétaire, je suis pas à plaindre, c'est correct, là, mais quand tu es tout seul à payer une maison, à un moment donné, t'as des priorités dans
le s'il faut que tu refasses ta toiture demain matin puis que tu sais le bardeau arrache, ça se peut qu'il y ait une coupe de vinyle qui passe sur Discog parce que va falloir t'acheter du bardeau.
Comme je m'amuse à dire, la musique, moi, elle est là dans les bons et les mauvais moments. Si je suis dans marbre financièrement, j'ai des assets pour être capable de me sortir de la chenoute.
Mm-hmm.
T'sais, la musique, elle va me supporter jusqu'au bout.
Ouais.
C'est pas souhaitable que je vende des fois des grosses pièces, mais je serais vraiment dans une situation problématique, je le ferais. Puis ça, je le vois pas à la semaine longue sur Facebook, mais j'en vois beaucoup des gens qui disent « Écoute, je suis dans la merde, il faut que je passe 3, 4, 5 affaires, les gars, v'là ma liste, rincez-vous, il faut que je fasse... » Ben, Mortis a déjà fait ça, v'là un bout de temps, il vendait plein d'affaires. Je me rappelle pas pour quel motif. Je pense qu'il avait des troubles de santé, puis il a vendu plein d'affaires. Il a fait des tests press avec... il avait ses tests press de ses vieux albums. Il rajoutait des photos par-dessus, puis il a vendu ça sur eBay au milieu des années 2000, me semble. Puis ça, il avait fait du cash, il avait vendu sa base dans le temps. Il avait vendu
de
ses masques, de ses armures, il a vendu plein d'affaires. Un de mes chums à Montréal, on le salue, Mick Bradis, il avait acheté le casque à Mortis.
Parles de Mortis, ok, c'est bon.
Oui, oui.
C'est bon. J'avais pas entendu comme il faut que tu avais mentionné. Mais rendu là, regarde, si tu veux faire, c'est. tout le monde a ses affaires à payer, puis rendu là, chacun son fond de tiroir, là.
Ben non, c'est sûr et certain. Puis il y a des items, des fois, même, ils vont monter de prix avec le temps, puis tu fais le saut, à un moment donné, t'es comme, bon, ben regarde, il y a peut-être un repress, peut-être que je peux le vendre. Puis il y a des items, des fois, qui sont pas supposés, à un moment donné, être flippables ou revendables. Tu sais, t'as des hypes qui pognent pour des raisons mystiques. Tu sais, si on prend, mettons, Lamp of Murmur, là, quand Melancholy Hall in Ceremonial Benetton s'est sorti, là, personne ne pensait que ça allait être une traînée de poudre demain, mais le premier qui s'est vendu, finalement, il s'est vendu à quoi? 185$. Le gars, c'était pas un flippeur.
Ouais,
c'est un vendeur qui s'est rendu compte qu'il y a eu un hype sur le Ben. Il l'a essayé, il l'a vendu, puis depuis ce temps-là, malheureusement, ben, le prix est statué à ce prix-là jusqu'à temps qu'il y ait des represses, mais les first press vont toujours osciller entre 175 et 200$, qui n'a absolument aucun bon sens.
Ouais.
Mais il y a eu du flipping pour le split avec Revenant Marquis.
Quand
il est sorti, bang, il s'est vendu à 100$ parce que le monde savait qu'il y avait un hype. Puis tu as eu un petit moment où ça a été aux alentours de 100$. Le médian est encore aux alentours de 100$, mais les quatre derniers qui se sont vendus, c'est entre 170 et 180. Là, on tombe plus dans la revente puis dans la maximisation du profit en raison du hype du bend.
Oui, oui. Mais c'est ça, c'est tellement. Il y a c'est tellement complexe. Du cas par cas. Puis,
Ben oui. C'est problématique aussi dans le sens, si c'est limité à 100 copies, là, un coup que tu l'as. Mettons que le premier qui se vend, on va dire, il est à 100$. Là, ça veut dire qu'il reste 99 copies vendables.
Ouais.
C'est que là, ton pool de chances de l'avoir à bas prix, il diminue tout le temps au fur et à mesure. À moins que tu pognes un vendeur éclairé qui te dit, bon, ben moi, je cherche pas à maximiser nécessairement mes ventes. Puis moi, ça, c'est à peu près mon cas. C'est souvent, je suis égal au médian ou je suis en bas du médian un petit peu.
OK.
Et si on parle d'expérience, quand Summoning a sorti, moi, j'avais acheté 3 box vinyle d'Old Mounting Down puis 2 box CD d'Old Mounting Down. Un pour moi, un pour Mathieu Artaud. Que non, je n'ai vendu un des miens à Mathieu Artaud. En fait, le mien, j'ai fini par revendre à Mathieu Artaud qu'on salue.
OK.
Un de mes chums de Trois-Rivières. Ben, certain. Il y a un de mes chums de Trois-Rivières qui en voulait un.
Okay.
Qu'on salue aussi. Puis le troisième, je l'ai vendu, je pense, à quelqu'un local, mais pas un prix exorbitant. Parce que mon but, souvent, moi, c'est de me refaire mon shipping.
C'est quand je comprends.
Tu sais, je me dis, bon, j'ai juste payé l'album le prix que je l'avais payé.
Ouais.
Par exemple, je l'avoue, les box CD, le premier qui s'était vendu, là, il s'est vendu à 150$. J'étais découragé. Moi, je l'avais mis à 120$. Puis un gars qui m'a écrit, il dit, hey, tu me le vendrais-tu à 90$? J'ai dit, ben, bien sûr. Bien sûr, tu sais, il a comme respect bête. Il m'écrit, d'habitude, les gens qui revendent disent, je veux tout le Christian voler, mais toi, t'as de l'air correct. Ben oui, je ne demande pas à l'une. Moi, écris-moi, je vais t'en le vendre. Tu sais, c'est pas pour rien, je mets best offer.
Ouais, ben c'est ça, c'est ça.
T'sais, l'autre d'après, je l'ai revendu, mais genre 10 mois plus tard, après la sortie, je l'ai mis à 173 best offer. Il y a quelqu'un quelque part qui va me faire un offre. Je me réveille un matin, il y a un Italien qui me l'a acheté à 173.
Tout ça pour dire que le prix, ça va avec la valeur que l'acheteur va accorder à ça. Tu sais, jusqu'à quel point l'acheteur va être prêt à payer pour ça. Le problème, c'est que ben t'as des gens qui vont un peu abuser de ça. Le monde qui font carrière, j'oserais dire, de ça, là, ça je trouve ça un peu douteux.
Ouais, c'est douteux.
Je connais un gars que, tu sais, lui, dans le fond, sa job dans la vie, c'est de pas avoir de job, puis ben tout ce qu'il fait, c'est racheter des fonds de label qui ferment en wholesale, puis après ça, ben il fait des passes à revendre ça, tu sais.
OK.
Tant mieux, regarde, tant mieux s'il ben, va donc, se tirer un peu d'argent de même, tu sais. Mais, tu sais, je me dis, t'as aucune stabilité, t'as aucune assurance que t'as du cash qui va rentrer, puis encore là, il y a tout le temps quelqu'un qui va vouloir te barguiner, tu sais, ta marchandise.
C'est éprouvant faire ça aussi, là. Tu sais, dernier exemple, peut-être, avant de conclure, un moment donné, j'avais regardé la liste du Record Store Day, puis, tu sais, évalue un peu ce qui sort. À un moment donné, il y avait Live à Aquarius de The Doors. Moi, j'aime bien les Doors. Puis, c'est un 3 vinyles. C'est sorti en 2016. Puis, c'était sorti à 8500 copies. Puis, j'ai fait 8500 copies pour les Doors. Là. C'est pas tant que ça.
J'avoue que c'est pas beaucoup pour la notoriété du groupe, mettons.
Non. Puis, tu sais, j'ai payé ça 56$. Puis, je l'ai encore scellé à la maison. Je me suis dit, pour une rare fois, je vais essayer de m'asseoir sur un album pour le fun, pour voir. Puis aujourd'hui, scellé, il est à peu près 200.
OK. Parce que la musique, c'est inconfortable.
Moi, ouais, la passion, mais tu sais, ça aurait pu pas valoir une scène dans l'absolu. Tu sais, c'est meillé, là, puis à un moment donné, je vais le traderai ou je vais tout simplement le déboucher pour l'écouter.
Ouais.
Puis si je décide de déboucher pour l'écouter, je vais être bien content. Mais pour l'instant, c'est la première fois que je patiente aussi longtemps à garder un album que j'écoute pas. J'ai jamais fait ça.
Malade. C'est même pas du black metal, pour une fois.
Non, exact. Puis j'adore les Doors pourtant, mais je me suis dit, regarde, on va l'essayer, on va voir. Puis je t'arrisque, là. Si l'année prochaine, ils ressortent un repress, dans l'absolu, ça vaut presque plus une scène. Là.
Ouais, je comprends.
Tu sais, ça demeure un risque, tu sais, mais bref.
Ça vaut presque plus une scène, mais rendu là, ben, tu pourras te permettre de l'ouvrir et de dire qu'il est vraiment rendu à toi, tu sais.
Oui, exact. Ben, quoi que dans l'absolu, il est encore à moi, là, mais il est officiellement sur la corde raide, on va le dire.
Oui, mais tu sais, moi, c'est comme les guitares, tu sais, tant que t'as pas ta première poc dessus, moi, toutes les fois, je fais une poc sur une nouvelle guitare, je me dis, bon, elle est un peu plus à moi, là.
Ouais, ben, c'est comme un char, ça. C'est la première poc qui fait mal.
C'est ça.
Après ça, tu te dis, ça rouille, ça tombe en morceaux, tout saute, c'est normal.
Malade. Good. Ben, écoute, un énorme merci pour cette chronique. Désolé, je t'ai fait un peu sortir de ta traque au début.
Ah non, pas trop avec ça, regarde.
Mais très, très intéressant. Puis, ben, c'est ça, morale de l'histoire, c'est dur à évaluer, puis c'est dur à juger parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que je pense qu'un peu toutes les opinions sont bonnes.
Puis, en fait, moi, je tire pas en roche sur un flipper puis ni un revendeur parce que, un, le flipper, il va vendre à haut prix directement puis le revendeur va bénéficier de l'action du flipper parce que c'est lui qui fait monter le prix.
Ouais.
Ça fait que l'autre profite de l'autre, ça, c'est évident. Là. Puis en même temps, on ne connaît pas les motifs réels qui font en sorte que ces gens-là flippent et revendent.
Effectivement.
Parce que tu as des gens qui vont flipper puis dans l'absolu, là, c'est peut-être bien pour nourrir leur famille. Là. T'sais, c'est un peu débile, là, mais ça peut arriver des fois qu'il y ait des cas qu'on a besoin de cash. Ben regarde, on le sait que ce ben-là va nous donner profitable, on va avoir de l'argent, ça fait qu'on va être capable de faire quelque chose pendant un bout de temps pour avoir un peu de roulement. Là.
Effectivement.
Mais c'est pas tout le monde qui nage dans l'opulence, on va se le dire.
Ben non. Mais c'est ça. Il y a tellement de façons de l'analyser. Bref, encore une fois, c'était passionnant. Puis on va se garder le sujet des rafles pour un autre moment donné.
Ah oh ouais, ça devrait venir rapidement. Peut-être bien pas la prochaine, mais je vais penser à ça.
Mais ça c'est de quoi que j'étais un peu... comment je pourrais dire? J'étais un peu mi-figue, mi-raisin sur le phénomène, mais je me suis dit, ça fait plein de fois, je me dis, faut qu'on parle de ça avec Michel.
Oui.
Éventuellement, on met ça au programme.
Ben oui, puis je vais te parler de mes expériences européennes, de ça, tu vas rire.
Excellent. Ben un énorme merci. Puis ben sur ça, nous autres, on souhaite du bon temps d'ici à dans deux épisodes.
Yes, ben on vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.
Bye bye. Et maintenant qu'on a refermé la boîte de Pandore, je vous invite à aller entendre Autarcie, un groupe français, d'un album qui est paru en 2018 qui s'appelle Sequania. La pièce s'appelle Virlet d'Ivraie. Et donc, on vient d'entendre Virelet d'Ivret de la formation française Autarcie. D'ailleurs, c'est un très bon album. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller porter une oreille à ça, je vous le conseille fortement. Et là, je veux vous parler, juste avant qu'on aille entendre le Comte du Soupirail, il faut que vous sachiez que Quentin, la façon qu'on fonctionne, évidemment, vous aurez compris qu'il est français, et la façon qu'on fonctionne ensemble, c'est que tout se fait évidemment à distance. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il m'envoie un petit résumé rapide du conte avant que je l'écoute, quand c'est canné. Et à toutes les fois, tu sais, je lis ça, puis je me dis, où est-ce qu'il est allé, tu sais, où est-ce qu'il est allé puiser ça, où est-ce qu'il est allé chercher ça. Là, cette semaine, il va nous amener un conte qui est tiré de l'écrivaine George Sand, qui est, j'oublie le nom réel de cette femme-là, mais bref, une femme qui écrivait sous un prénom masculin. Et c'est un conte qui raconte l'histoire de la reine des feux follets qui fait enlever un berger afin de le forcer à la marier. Et encore une fois, j'adore la façon que Quentin a de raconter ses histoires puis d'installer son atmosphère. Encore une fois, j'ai été conquis par son histoire. Alors j'espère que ça va être la même chose pour vous de votre côté. Et c'est là que je lui cède la parole parce qu'on s'en va au conte du Soupirail.
La reine des feux follets. Dans le Berry des vieux siècles, cette terre de centre-France que l'automne rend boueuse, on se souvient des flambeaux, des flambettes, des feux follets aux sales couleurs dansantes sur les mares qui dorment. Les paysans murmurent que ce sont des âmes qui peinent dans leur mort ou qui sont si mauvaises qu'elles veulent perdre les âmes des vivants. Comment elles font ? Elles rient. Elles changent de forme. Elles appellent. On les suit au milieu des eaux et on tombe se noyer dans les vases et les pourritures des mares. On se fait blanchir et gonfler le corps par ces eaux-là qui sont putrides et on y reste tant que personne n'a remué toute la boue du fond. Quand elles ne vous noient pas, les flambettes, elles vous mènent à leur messe au diable et ça vous fait voir un monde qui vous rend maigre, qui vous rend jaune, boiteux, vomiteux, et qui finit par vous tuer de fièvre et de folie furieuse. Tenez, entendez la sale aventure qui est arrivée à un berger du Berry, qui a vécu ses nuits d'âme écorchées par le peuple des feux follets. Le gars Ludre, c'était son nom, il vivait à garder 200 têtes dans les prés autour de la mare aux flambettes. Il logeait avec ses chiens dans une cabane roulante, juste à côté de l'enclos de ses bêtes. Il dormait bien là-dedans. Ses chiens le réveillaient au moindre bruit qui ne venait pas de ses moutons. Mais une nuit, c'est bien autre chose qui l'a réveillé, le gars Ludre. C'était une sale lumière pleine des relents de la mare, comme si on lui plongeait les yeux dans la vase. Et sur le toit de sa cabane, il y avait bien quelque chose. Mais dans ce demi-sommeil encrassé, impossible de savoir si on y marchait ou si on y frappait, et ses chiens n'avaient pas gueulé. Il a voulu se redresser, le Ludre, il a voulu, mais il se sentait serré des côtes, étouffé comme dans le fond d'un étang, comme si on lui noyait le gosier avec une langue de vase. C'est que quand il s'est redressé, le Ludre, il avait déjà quelqu'un qui était assis sur lui et qui lui souriait. Et je vous jure que Ludre a su que c'était ce sourire-là qui l'étouffait. Autour du sourire, il y avait une sordide figure de vieille, ridée en déchirure. Et toute petite la vieille, si petite qu'elle tenait à genoux sur le ventre du berger en l'écrasant de ses os en pointe. Elle était nue, la vieille de la nuit, toute nue sous ses cheveux qu'elle avait noués comme un grand ruban des tombeaux autour de sa grisaille de chair, de son cou à ses cuisses glaciales et toutes sèches.
« Ça, mon garçon, viens avec moi, l'heure est venue. Quelle heure donc est venue la vieille?
L'heure de nos noces, le berger. Tu m'as promis le mariage, alors viens, viens avec moi.
Mais c'est la première fois que je te vois, la vieille.
Tu mens, berger, tu mens. Tu m'as vu avant, tu m'as parlé déjà, et tu as promis. Tu ne reconnais pas la mère des flambettes, la reine des feux follets? Ah ça, souviens-toi.
Et le ludre, il s'est souvenu. L'automne d'avant, il s'était mis à genoux dans la vase, comme on lui avait dit au lavoir. Et il a demandé au feu des marais de l'aider, et de l'aider bien, et de l'aider longtemps. D'aider ses chiens à garder ses bêtes, d'aider ses jambes à marcher et courir dans la boue, d'aider ses bras à porter plus et ses yeux à mieux voir, de le faire bien dormir la nuit, et de le tenir loin de toutes les tousseries et de tous les mâles souffles. Il s'est souvenu de la haute flamme verte, flambeau parmi les flambeaux, qui s'est vautrée contre son corps à lui, et qui a lancé une langue glaciale contre la sienne, et qui lui a tout accordé en échange de la première chose qu'elle viendrait lui demander une nuit.
« Et la nuit est venue, berger, viens avec moi, on va se marier !»
Oui, la reine, j'ai promis, c'est vrai, mais à condition que ça ne soit pas contre ma foi de chrétien et contre mon âme.
Ah, ça, maudit! Est-ce que je viens te lutiner comme une sale femme des bordels? Regarde, je suis vêtu de ma chevelure d'argent, de ma gorge à mes pieds. Quant à ton âme, c'est à la messe de la nuit que je t'emmène. Et c'est grand salut pour un vivant comme toi que d'épouser une morte comme moi. Mais plus le temps, viens avec moi.
Et elle l'a traîné, le ludre, hors de sa cabane, en piétinant ses chiens qui se sont réveillés en pleurant, en le tirant par la jambe gauche sur les traces de ces bêtes qui bêlaient dans leur parc.
Attends, la vieille, attends. C'est pas possible, tu sais, la vieille. Parce que c'est trop d'honneur que je mérite pas et j'ai promis autre chose déjà. J'ai promis à Saint-Ludre, qui est mon saint patron, de rester garçon toute ma vie pour toujours bien travailler.
Et c'est le nom du saint qui a fait lâcher la vieille reine des feux follets. Elle a bêlé, elle aussi, et il y avait dans sa voix le crépitement d'un grand feu qui prend dans toute une forêt. Elle a lâché le ludre et elle s'est arraché les cheveux. Et il a vu, ludre, que sous ses cheveux, elle n'était que chèvre.
C'était une chèvre noire à tête et à main et à pied de vieille. Le ludre, il allait se signer, allongé dans la boue.
Mais la sale vieille avait disparu dans le cœur de la nuit, et la côte qui descendait à la mare brillait un peu de vapeur verte. Le ludre, il a craché par terre, vers la mare, il s'est relevé, et il a boité à sa cabane. En rentrant, il a cogné sur ses chiens de ne pas l'avoir réveillé.
Ben, je sais, mais c'est comme ça qu'il les traitait, ces chiens. Car ils se sont couchés à ses pieds, en pleurant, encore.
Et ce qui l'a réveillé, le berger, encore, ce sont ces chiens qui sont sortis en hurlant de la cabane et qui ont sauté les clôtures du parc et qui se sont jetés sur les bêtes en poussant des gueulements qu'on aurait dit des mots d'homme. Le ludre, il est sorti à moitié nu derrière eux. Mais tout ce qu'il a vu, c'était ces 200 bêtes qui se jetaient contre les clôtures pour se sauver des chiens. Les clôtures ont cédé et voilà les brebis qui courent de par la prairie en tombant, en se piétinant, avec les chiens qui claquaient des mâchoires pour les chasser plus loin. Ludre, il s'est lancé sur ses bêtes. Il a juré sur ses chiens. Il a fait au moins 12 lieues pendant des heures de nuit pour tâcher de toutes les rassembler, ces bêtes. Mais quand les premiers gris de l'aube ont fait tomber la rosée dans les collines autour de la mare, le berger, il est tombé à genoux dans la boue. Les bêtes qu'il poursuivait, c'était que des flammes pâles qui s'envolaient vers la mare encaissée là-bas dans le fond du matin. Et ces deux chiens, il les a vus se changer en deux grosses corneilles qui cisaillaient la terre en ricanant. Il est rentré à son parc. Son troupeau était là et les chiens le gardaient. Il s'est laissé tomber comme une pierre sur sa paillasse et il a dormi. Un bon sommeil de chrétien pour récupérer du sabbat. Mais il s'est réveillé dans le milieu du jour. Fallait compter ses bêtes, il avait oublié de compter ses bêtes. Alors il est sorti et il a compté, compté et compté encore. Mais rien à faire, il en manquait une. Une seule. Et il a eu beau la chercher, pas trace d'elle, nulle part dans les bois ou dans les prés autour de la mare. C'est le soir qu'il l'a retrouvée. Quand il rentrait à son parc, un bûcheron qui était venu travailler près de la mare avait sorti de la vase la pauvre bête, toute gorgée d'eau froide. « Hé, Ludre, c'est pas du boulot digne de toi, ça. Fais attention, on te fait confiance dans le pays. »«
Ben, je sais, ça n'arrivera plus. J'ai été souffrant toute la nuit, mais je vais me reprendre. Merci de m'avoir ramené la bête. Je vais me reprendre, tu sais. Tu leur diras. »
Il vous laisse reprendre, Ludre. C'était un jeune et bon berger. Il vous laisse reprendre. C'était pas sa faute si ça recommençait la nuit suivante. Il s'était couché après avoir bien prié et en caressant bien ses chiens pour se faire pardonner et pour leur redonner confiance. Et il a dormi. Mais dehors, quelque chose est venu. C'est venu du bas de la côte, de la mare maudite. Et ça a monté jusqu'à son parc en piétinant la boue. C'était une chèvre noire, aux cornes de fer, qui a bêlé sur ses ouailles et qui les a convaincus de la suivre. Et Ludre, il était parmi elles, et il les suivait aussi, et il sautait les clôtures, et il galopait autour du poison de la mare, comme elle. Mais lui, c'était pas une brebis, non, c'était un bouc. Et ses chiens, ils étaient là aussi. Mais ils avaient un corps d'homme, une chemise de berger et un bâton. Et ils lui disaient des mots de chien grognés dans leur babine en lui donnant des coups pour qu'il avance. Ils lui ont même mis le museau sous l'eau pour le punir, parce qu'il avait pas voulu, comme les autres, téter à la mamelle terreuse de la chèvre de Cornefer. Il a senti toutes les limaces et les crochets des marais venir lui ronger les joues, et quand le jour est sorti du ciel, il était là, bien berger, tout en homme, et tout nu dans la boue des marais, avec la figure pleine de son eau. Il est rentré, il s'est habillé. Il a compté ses bêtes et il en manquait une. Il est retourné tout de suite à la mare et il l'a bien retrouvée, toute gonflée, toute blanche aux yeux, bonne à écorcher. Quand ça vous veut, une sale mère des marais, quand ça veut vous marier, ça vous lâche plus jusqu'à vous marier à la tombe. Ça vous laisse plus le choix que de vous allonger dans la terre pour vous monter dessus pour l'éternité. Et c'est ce qu'elle a fait, la reine des feux follets, au pauvre Ludre. Pendant 8 nuitées de suite, le Ludre, il a couru de force dans les sabbats des flambeaux, en prenant des formes à souffrir et à se faire torturer par les morts ou les bêtes ou les autres, et il a maigri de son sang et de sa chair, le pauvre Ludre. Il a jauni comme l'herbe au mois d'août. Ça allait le mettre en terre, le sabbat des marais. Et comme rançon, ça lui volait une bête par nuit, pour la messe noire. Mais dans ces vieux pays, quand on voyait, on parlait. Et comme le bûcheron avait vu, et qu'il avait parlé, un vieux berger est venu trouver Ludre, et lui a dit « mon pauvre garçon qui mérite pas ça, mais faut jamais se donner aux marais, même pour du talent. Ils sont vieux, ces marais. » Et leur peuple est bien vieux aussi, et il n'a que faire du temps des vivants, et ça peut durer longtemps. Je la connais, la vieille bique aux cheveux de fer, je la connais. Elle a lutiné un de nos anciens, et elle l'a fait crever de fièvre et de chagrin. Mais dans d'autres paroisses, ils traînent à dire qu'on peut faire cesser les sabbats. Approche, écoute donc voir. »
Et le berger lui a dit tout ce qu'il savait à Ludre.
Au soir venu, le gars Ludre est allé s'asseoir sur le bord de sa porte. On attend les mauvais êtres aux interstices, c'est là qu'on les voit le mieux. Il voulait lutter contre le sommeil, mais le sommeil est pas venu. Parce que la mare a senti qu'il voulait lui parler. Alors, la reine des feux follets s'est avancée, aussi vieille et petite que sa première nuit de fureur, et elle a boité vers la cabane. Ludre s'est levé, et il lui a dit, avec toute sa maigre force, « Viens, belle des belles, et marions-nous vitement. » Personne ne peut raconter la noce. Même moi, quand je l'ai su, j'ai tout fait pour l'oublier. Il faudrait, pour la dire, des mots qu'on ne trouve que dans les gosiers des plus vieux crapauds, des mots qui trempent dans leur venin. Mais la vieille a voulu célébrer leur nuit de noces dans la cabane de Ludre. Elle était tant en joie qu'à la minuit au clocher du lointain, la voilà qui s'endormait déjà. Alors, le jeune berger fraîchement marié à une chèvre, il a attrapé sous son oreiller ses ciseaux à tondre les moutons. Et d'un souffle angoisseux, il lui a tranché la barbe qu'elle avait au menton. C'était comme le vieux berger lui avait dit. Faut lui couper la barbe, tout à nu. Oui, mais... Et si ça suffisait pas, elle reviendrait? Pour sûr que non, il allait survivre au flambeau de la mare. Il allait survivre. Allez, la vieille mère, sale reine des flaques et des vases, à la tondaille, et pour de bon. Et le Ludre, il a saisi sa chèvre épousée à la gorge, et lui a tondu le crâne, la nuque, le dos, et partout où il a trouvé de la fourrure à trancher. Si elle s'est débattue, Ludre, il l'a jamais su. Il était trop furieux de la vaincre. Mais ce qui s'est sauvé de sa cabane cette nuit-là, ça a laissé de la cendre partout et s'est allé mourir dans un coin de boue en crachant des bêlements. Au matin, Ludre a mis le feu à tout le poil de la chèvre reine. Et de ce poil-là, il en est même pas resté un tas de cendres. Il a recompté ses bêtes. 200, sans une seule qui manquait. Même les noyés était revenu des morts. C'était donc la sale histoire de Ludre qui a été mariée à la reine des Feux Follets. Rappelez-vous de couper la barbe de toutes les sorcelleries qui viendront vous tourmenter les nuits, mais rappelez-vous surtout de ne jamais vous agenouiller dans la boue des marais et de ne jamais promettre à ces peuples-là. Ils n'ont que faire du temps de la vie, mais ils voudront la vôtre. La reine des Feux Follets, conte du Berry de George Sand, intitulé Les Flambettes, dans les légendes rustiques, 1858.
Merci Quentin pour ce conte du soupirail encore une fois. Et là, ben nous, on arrive en fin d'émission. Je prends un petit moment pour vous remercier à vous, les auditeurs qui êtes là, qui écoutez jusqu'à la fin. Merci d'être là à chaque épisode. Merci de partager aussi de votre côté aux métalleux de votre entourage qui pourraient apprécier qu'est-ce qu'on fait comme contenu. T'sais, on touche un peu à tout, hein, que ça soit justement des chroniques avec Michel et Pierre-Yves, on est un peu plus dans la musique. On a justement Doom qui est vraiment plus dans l'aspect technique de la guitare et tout. On a Quentin qui est dans les contes. Et là, ben avant qu'on se laisse, je peux vous annoncer qu'on va... je vais faire un teaser pour le prochain épisode, parce qu'au prochain épisode, il va y avoir une nouvelle personne qui va joindre à l'équipe du souterrain et je ne révèle pas son nom pour tout de suite, sauf que ce que je peux vous dire, c'est que c'est une fille qui va venir faire des chroniques avec nous, un peu sur le même principe que les gars. Donc vous allez l'entendre un épisode sur deux, probablement un épisode sur deux, un épisode sur trois, bref, on va essayer de s'ajuster. Mais en greffant comme ça une nouvelle chroniqueuse avec nous, j'ai l'impression que ça va amener un... justement, un contenu, son champ de son champ d'expertise est différent des autres membres de l'équipe, donc ça va apporter quelque chose, évidemment, de différent pour le show. Je pense que ça va être un bel ajout pour le souterrain. J'espère que vous allez apprécier de votre côté. Et j'en dis pas plus pour l'instant. Vous en savez déjà beaucoup. On a une nouvelle chroniqueuse. Ça sera au prochain épisode. Ça sera là que vous pourrez le découvrir. Parce que si tout va bien, en tout cas, prochain épisode, elle va être avec nous. Je sais que je n'avais parlé un peu plus tôt d'avoir d'autres chroniqueurs dans le show. Vous comprendrez que c'est pas parce que c'est pas arrivé, là. On a fait des tests, puis finalement, ça fonctionnait pas. On l'a pas rendu à jour, sauf que... pour cette nouvelle tentative-là, on a déjà travaillé ensemble, je connais la personne, je sais que ça va bien aller, fait que je me permets de scooper ça. nouvelle chroniqueuse dans le prochain épisode du Souterrain. Donc, avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez toujours aller vous abonner sur les sites de balado, votre site de balado préféré, sauf Spotify, parce que nous, on passe la musique et que eux nous boycottent. Et ça, c'est ma décision personnelle. J'ai décidé de m'en crisser et de continuer à passer des groupes dans le souterrain. Parce que justement, tu sais, on le fait pas. On le fait dans un bon. Comment je pourrais dire? Dans une bonne approche, une bonne perspective. C'est pas pour bâcher les groupes, c'est vraiment pour leur donner de la visibilité. Justement, faire découvrir des bands. C'est peut-être que des bandes que vous connaissez pas, ou peut-être des chansons ou un album que vous connaissez pas. Bref, si on réussit à vous faire découvrir de la musique, c'est aussi un peu ça, la mission du souterrain, tant qu'à moi. Donc, fuck Spotify, on va continuer à passer un minimum de 2 tonnes par show. Et bien évidemment, tu sais, c'est pas abusé. Je trouve 2 tonnes, c'est... Ça fait de la couverture, puis ça, de notre côté, pour séparer les segments parlés, ça fait super bien, puis pour les groupes, ça fait une bonne vitrine. Donc, cette formule-là, ça, vous pouvez vous assurer que ça va rester. Donc, je vous rappelle que, outre cette plateforme qui nous boycotte, vous pouvez aller sur les autres. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur la page Facebook et le compte Instagram du show. Évidemment, comme à tous les épisodes, il y aura des photos de Quentin et ben pas de Quentin, mais pour la chronique à Quentin, et des photos de la chronique à Michel qui sont en lien avec qu'est-ce qu'ils ont abordé cette semaine. Donc ça, c'est sur Instagram. Si vous voulez suivre les déboires de l'équipe et de l'émission, vous pouvez aller sur la page Facebook et tous les liens quand on poste. C'est un nouvel épisode. Les liens pour aller les écouter directement sont ajoutés sur la page. Un petit peu moins de tracas pour trouver le show. Et je vous rappelle, merci de le partager. C'est un par un qu'on va chercher nos auditeurs. Le podcast, c'est quelque chose qui est encore... c'est plus nouveau au Québec parce que, bon, ça fait déjà un bout que ça vire. Le fait, par contre, que ça soit un petit peu plus démocratisé et que ça touche un peu plus de gens qu'auparavant, ça, c'est, y a encore du travail. Oui, c'est, oui, ça va chercher plus de gens qu'avant, mais il y a encore du travail à faire. Donc, c'est un par un qu'on va aller chercher les auditeurs. Avant qu'on se quitte, un gros merci à Moribond pour le logo. Merci à Monarch et Angantyr pour les thèmes musicaux. Merci à Yaoi pour le montage. Et moi, ben sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, peu importe le moment où vous nous écoutez. Et je vous dis à la prochaine.